On va continuer la petite étude sur l'Épître aux Philippiens. On continue ce qu'on était rendu dans le chapitre 1. Ce soir, on va regarder à partir du verset 20. Mais on va lire pareil le verset 19 pour pouvoir nous mettre dans le contexte. On a vu là-dedans la dernière fois que l'apôtre Paul s'était fait critiquer par des prédicateurs, des chrétiens, des hommes dans le Seigneur, mais qui comprenait pas que l'apôtre Paul se ramasse en prison, puis il critiquait, puis il le rabaissait, puis il devait aller le blâmer l'apôtre Paul de continuer à évangéliser quand il savait qu'il n'avait pas le droit d'évangéliser par les Romains, puis tout ça. Puis l'apôtre Paul, lui, tu vois que dans son attitude, c'est qu'il expliquait que lui, ce qu'il faisait, il avait confiance que c'était la volonté de Dieu de faire cela. Suite aux critiques des différents prédicateurs contre lui, Paul nous explique son état intérieur. Puis là, on voit ça dans Philippiens. À partir du verset 19, parce qu'on en a parlé la dernière fois du verset 19, on va y aller en expliquant à partir du verset 20. Là, il dit, quand il est en prison, il dit de prier pour lui parce qu'il sait que ça va tourner à son salut grâce à vos prières puis à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Parce que Paul, il savait que Dieu exauce les prières, puis il demandait aux chrétiens de prier pour lui pour qu'il finisse à son salut, c'est pas pour le sauver pour la vie éternelle, il était déjà sauvé, c'est de le sauver de la prison. Quand le mot salut dans la Bible, ça s'applique à être délivré de quelque chose, à être sauvé d'une situation, ça c'est pas juste le salut pour la perdition, pour le être pardonné. Il croyait que si les chrétiens prient, ça va tourner à son salut, qu'il va sortir de prison. Il y a d'autres fois, le mot salut, c'est au niveau guérison. Puis là, il dit, en continuant verset 20, « Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien. » Là, il se faisait blâmer par des chrétiens d'être ramassé en prison, mais lui, il sait que si les gens prient pour lui, il va sortir de là, puis il n'aura pas honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, puis soit par ma mort. Tu vois l'engagement de l'apôtre Paul, comment est-ce que lui s'était décidé à suivre le Seigneur, coûte que coûte, peu importe ce qu'il va avoir à traverser, son but, c'est que Dieu soit glorifié, soit par sa vie ou soit par sa mort. Il était prêt à mourir pour le Seigneur. Peu importe ce que le monde pense, souvent, nous, on est arrêtés par ce que le monde pense. On n'ose pas faire des affaires parce qu'on pense qu'est-ce que l'autre va penser. Puis là, on est tellement arrêté sur bien des affaires que souvent, on fait même presque plus rien. On n'ose pas dire ce qui devrait être dit. Tu sais, j'écoutais la parole cette semaine, puis c'est Jésus qui parlait, puis il dit, « Ils m'ont haï parce que je leur dis la vérité. Je leur dis que leurs œuvres sont pas bonnes. » Puis ça, là, ça m'a fait réfléchir. Jésus chercha pas à se faire des amis, c'est pas le but. Oui, il aimait tout le monde, mais il chercha pas à se faire des amis, il chercha juste à être franc, à dire ce que Dieu dit sur les sujets. Puis là, il m'haïsse parce que je lui dis que leurs œuvres sont mauvaises. Puis en réalité, des gens qui disent des mauvaises affaires ou qui font des mauvaises affaires, il y en a plein autour de nous autres. Puis quand on commence à regarder, à vouloir se faire des amis plutôt que dire les vraies affaires, on cherche à... Comme moi, j'essaie d'être un bon gars, j'essaie d'avoir des amis. Pas des amis pour dire que je vais me tenir avec, mais je ne cherche pas à confronter puis à dire les vraies affaires. Mais quand c'est le temps, il faut le dire. L'apôtre Paul, lui, était prêt à continuer à dire ce qu'il avait à dire sur les choses de Dieu pour glorifier Dieu. Sa vie, c'était de vivre pour Dieu, puis que la parole de Dieu soit répandue. Il avait été appelé à ça, on l'a vu dans un verset, puis on va le revoir, je pense, dans un verset ce soir. Paul, il nous partage qu'il sait très bien qu'un jour, il y aura à rendre compte pour sa vie. pour ses décisions puis leurs conséquences, puis il dit qu'il n'a honte de rien. C'est ce qu'il nous dit dans ce passage-là. Il dit, je vais sortir de prison, puis selon ma ferme attente puis mon espérance, je n'aurai honte de rien. Quand il passe devant le jugement des hommes, ou même un jour, sachant qu'il va comparaître devant le jugement de Dieu, il sait qu'il n'aura pas honte de rien du fait qu'il a continué à prêcher quand le monde l'interdisait, puis il s'est ramassé en prison. Il s'est fait critiquer par des chrétiens, mais lui, il dit, j'aurai honte de rien parce que je sais que c'était la volonté de Dieu. Nous, quelles sont nos pensées intérieures face à notre future rencontre en personne avec le Seigneur? Est-ce qu'on est capable de dire, comme l'apôtre Paul, que je n'ai honte de rien, ou on a honte d'un paquet d'affaires? Surtout aussi, juste, on regarde juste sur le point de dire, est-ce qu'on évangélise comme qu'on devrait évangéliser, comme Paul le fait? Non. Ça, c'est sûr qu'on n'est pas à sa hauteur, dans le sens de faire comme lui. On n'est pas comme lui. Puis, est-ce qu'on a confiance qu'on aura honte de rien parce qu'on pense qu'on a tout fait qu'est-ce qu'il fallait quand c'était le temps, puis qu'on le fait encore aujourd'hui quand c'est le temps? La Bible nous avertit qu'on nous devrons rendre des comptes puis recevoir selon nos actions. Dans 2 Corinthiens 5, 10, Paul l'a déjà prêché, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. On va tous passer là, devant le Seigneur, face à face, puis on n'aura pas d'excuses, parce que tout ce qu'on a fait va être là. Est-ce qu'on va être comme l'apôtre Paul puis dire, je sais que j'aurai honte de rien parce que ma vie, c'est de servir le Seigneur, soit par ma vie puis soit par ma mort, ou qu'on... Puis Paul le dit à Timothée, force-toi d'être comme un ouvrier qui n'a point à rougir puis qui dispense droitement la parole de Dieu, parce qu'en plus, c'est de dispenser droitement. Dispenser la parole, c'est une chose, mais la dispenser droitement, c'est comme qu'on parlait tantôt, de dire les vraies affaires quand c'est le temps de le dire. Si c'est pas correct qu'est-ce qu'une personne fait, faut être capable de le dire. Parce qu'on, c'est, oui, on cherche l'unité, mais on cherche aussi la vérité. Puis, quand on compte des menteries aux autres où on dit que des paroles flatteuses qui flattent dans le sens du poil, parce qu'on veut, le monde cherche des paroles agréables, ils veulent pas entendre les vraies affaires. Puis quand tu parles que des paroles agréables, t'es en train d'encourager à ce que ça y aille encore plus mal. Si tu dis les vraies affaires, il y a une possibilité de repentance puis de changement pour que les personnes se renlignent devant Dieu, se ressaisissent puis que là, ils marchent droit puis que ça ramène le monde à glorifier Dieu dans la vérité. Sommes-nous en paix et sentons-nous inquiets et peut-être même sous quelque culpabilité au niveau de l'évangélisation, parce que là, je m'arrête juste pour l'évangélisation, parce qu'on le sait qu'on va comparaître devant Dieu, mais c'est pas juste pour l'évangélisation qu'il va nous parler. Il va nous parler aussi pour toute notre vie. Comment est-ce qu'on a été avec les autres, comment est-ce qu'on a vécu au niveau de la sainteté, puis tout ça, de la droiture, de la justice, dans l'amour. Tous les points, là, c'est Dieu, il voit tout, puis il nous voit bien plus que qu'est-ce que nous autres, on peut se voir. Personnellement, des fois, on se regarde dans le miroir et on se pense bien bon puis bien fin. Puis en réalité, on voit, là, c'est parce qu'on est complètement aveuglé. On est complètement séduit quand on dit ça parce qu'on n'est pas mieux que les autres. Puis on a toutes des choses qui marchent pas. Ça n'empêche pas que Jésus dit même chaque parole qu'on aura prononcée dans notre chambre à coucher, même va être révélée. On a-tu le même courage que Paul pour faire qu'est-ce que Paul faisait? Puis je pense que Dieu, ce soir, veut nous parler justement au niveau de l'évangélisation pour qu'on pousse plus. Paul, il dit, lui, qu'il aura honte de rien face aux accusations contre lui, que ce soit devant les hommes ou même devant Dieu, le fait qu'il fait, lui, il savait qu'il faisait ce qu'il devait faire. Son but dans sa vie puis dans ses décisions, c'est que le Seigneur soit glorifié par sa vie ou par la manière qu'il vit ou par même la mort qui était pour mourir. Jésus l'avait dit à Pierre. Il dit, ils vont te mettre une ceinture puis ils vont t'amener où ce que tu veux pas. Puis lui, sûrement, quand c'est arrivé, il a accepté ça, de glorifier Dieu de la manière que Dieu avait prévu pour lui. Puis il avait dit d'avance comment ça arriverait. Puis quand c'est arrivé, il a sûrement peut-être avalé. C'est sûr que là, tu sais, quand ton heure est arrivée, t'as pas le choix. Puis là, ils peuvent faire plein d'injustices parce que la plupart de tous les apôtres ont été assassinés. C'est des injustices. Ils ont frappé des justes devant Dieu, des justifiés par Jésus, mais aussi des gens qui marchaient d'une manière qui était juste. Puis c'était comme une révoltant, là, c'était comme quelque chose de grave, mais eux autres savaient qu'ils étaient pour glorifier Dieu de la manière qu'ils vont mourir. Autrement dit, ils vont continuer à garder la foi, puis confesser qu'est-ce que Jésus est Dieu, puis qu'ils croient en son sacrifice pour le pardon. Ils vont continuer à confesser les choses de Dieu, malgré que le monde voudrait que tu renies. Glorifier Dieu, c'est jusqu'au bout. Être un témoignage jusqu'au bout. L'apôtre Paul lui dit qu'il l'était, puis qu'il avait l'attitude à vouloir l'être, puis lui-ci, il était apparemment qu'il est mort décapité. Dans Philippiens 1:20, il dit, « Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Puis il dit même avec une pleine assurance. Il avait une ferme attitude de vouloir y aller jusqu'au bout sans... Il se laissera jamais démonter. Ben, c'est ce que, ça, tu peux avoir une disposition de même une journée, mais j'espère qu'il l'a gardé jusqu'au bout. Puis oui, il l'a gardé jusqu'au bout. Pour nous, c'est la même affaire. On peut l'avoir aujourd'hui, cette force-là. Puis dire, oui, on est prêt à aller jusqu'au bout. Comme les disciples. Non, Seigneur, ça t'arrive. On est prêt à mourir pour toi. Puis là, quand arrive l'affaire, tout le monde se sauve. Oui, se sauver, tu peux te sauver en courant pour t'échapper, comme Jésus l'a fait à plusieurs reprises. Mais quand ton heure va être arrivée, tu n'as pas le choix, faut que tu passes par là. On attache beaucoup d'importance à notre vie, nous avons peur de faire les choses pour le Seigneur. Nous avons peur d'exposer notre vie à la souffrance, à la honte ou au rejet par les humains. On n'ose pas parler parce qu'on a peur. Même si on dit qu'on n'a pas peur. Aujourd'hui, quand on est entre nous autres, on n'a pas peur. Mais la minute qu'on sort, il y a quelque chose qui se passe. Puis faut être menteur pour pas avouer ça. Sinon, on sera tout le temps en train d'en parler sans arrêt, sans... Il n'y a rien qui nous arrêtera. Si c'est pas de même, c'est parce qu'il y a une peur à quelque part. On se retient parce qu'on veut pas s'exposer à se faire rire de nous autres, à se faire moquer, à se faire insulter, à peut-être à manger une claque. Pourtant, Jésus nous a dit de pas craindre les hommes. De pas baser nos actions sur la crainte des hommes. Nos vies ne peuvent pas être plus pires que ce qu'ils ont fait au Seigneur. C'est ça que Jésus a dit dans Matthieu 10, 25. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez point. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Fait que le Seigneur nous enseigne à pas craindre ce que le monde pense. Pas craindre les hommes, puis pas craindre non plus ce qu'ils pourraient faire. Jésus nous dit aussi que notre crainte devait plutôt être de craindre les conséquences qui seront éternelles, les celles qui viennent de Dieu. Dans Matthieu 10, 28, c'était juste deux versets plus loin, il dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la Géhenne. Ça veut dire, faut développer ça, cette force-là. S'il nous dit ça, ça veut dire qu'il nous dit à nous, il n'a pas dit, je vais vous donner d'autres choses qui vont vous donner cette capacité-là. Non, il nous dit à nous autres de prendre comme une l'attitude. Faut que tu y penses, faut que tu médites à ça. Est-ce que je suis prête à foncer, puis à pas me laisser ébranler, puis à commencer à parler, puis à en parler sans chercher à me faire des amis, à dire les vraies affaires à tout le monde. On est-tu là pour nous, pour la suite de notre vie, ou on est là pour le Seigneur? On veut-tu nous se glorifier ou faire les choses qu'on aime, ou on veut vivre pour le Seigneur? Tout notre temps présent devait être pour en profiter afin de glorifier Dieu sans crainte du jugement des hommes. Toute notre restante vie devrait servir à glorifier Dieu. Parce que Dieu est glorifié quand il y en a un qui se lève, puis qui s'en va dehors, puis qui dit à l'autre, Jésus t'aime, puis il est mort pardonner tes péchés, puis il veut que tu te repentes. Quand tu lui dis ça, là, Jésus, il est fier. Il est glorifié. Parce qu'on amène ces gens-là à penser et à donner la gloire à Dieu. Nous, on le fait en le proclamant, puis l'autre, s'il l'accepte, puis il se met à glorifier Dieu lui tout, parce qu'il donne sa vie au Seigneur, Jésus est encore plus glorifié. Dans Matthieu 10, 32, il dit, c'est pourquoi, puis là, il nous le dit encore dans la même idée, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes. Ça, il parle pas juste de dire, confesse que tu crois en Jésus. Ça, c'est vrai qu'on le fait pour le départ. Mais quand tu évangélises, tu es en train aussi de confesser devant les hommes. Tu continues toute ta vie à confesser devant les hommes si tu évangélises. Si tu n'évangélises pas, tu n'es pas en train de confesser devant les hommes. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera, oui, oui, là, c'est sûr qu'on a, c'est pas à notre étape, mais t'en parles à l'autre. Si l'autre renie ce que tu dis, il renie Jésus. C'est lui, là, dans son cas. Quiconque le reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Fait que les gens, ils ont à prendre position à quelque part. Soit qu'ils se mettent à croire ce qu'on dit, puis pour être sauvés, ou soit qu'ils vont renier, puis ça va les perdre. Est-ce qu'on veut lui donner une chance de se dire qu'ils puissent être sauvés? Parce que s'ils n'en entendent pas parler, ils ne peuvent pas être sauvés. Comment croiront-ils ces personnes qui prêchent? C'est pour ça qu'il faut sortir, passer des pamphlets, faire des invitations, du bouche à oreille, par Internet, par n'importe où, là, par la radio, la télévision. Il faut utiliser tous les moyens possibles pour atteindre le plus de monde possible pour le reste du temps qui nous reste. Déjà, Dieu il avait déjà dit à Paul de ne point se taire, puis de continuer à parler en son nom. Puis ça, ça fait partie, je pense, du message que Dieu veut nous dire dans Actes 18, le verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point. » Continue à évangéliser, à annoncer ma parole. Puis là, il disait qu'il y avait un peuple nombreux dans cette ville. Il les avait pas encore. Par la foi, il y avait un peuple nombreux à aller chercher. Dans les villes qu'il a passées, partout ce qui passait, il se taisait pas. Et un coup, tu vois qu'il se ramasse en Asie, puis il dit qu'il a évangélisé. Il a évangélisé l'Asie dans un an et demi. Une province complète, là, dans un an et demi. C'est une machine, ce gars-là. Mais c'est un exemple pour nous. Ça m'inspire beaucoup, mais il nous manque encore une coche. On n'est pas encore à son niveau. Puis on veut, j'espère qu'il y en a d'autres qui veulent prendre position pour Jésus, puis pas avoir de crainte, de peur, pas avoir froid aux yeux, comme qu'ils disent en québécois. Puis qu'on aille, puis qu'on en parle partout ce qu'on passe. Puis c'est de même qu'il va avoir des fruits. Amen. Je crois que Dieu veut nous encourager à prendre plus souvent position, à parler pour lui. On va prier. Seigneur, Je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour tout ce que tu nous annonces dans tout cela. Grave ces choses-là dans notre cœur. Surtout, donne-nous d'être courageux. Qu'on soit pas des gens, comme qu'on dit en québécois, des pissous, des peureux, mais qu'on soit des gens qui ont du front, puis qu'ils sont capables de parler quand c'est le temps, puis de prêcher la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, qu'on soit des gens comme ça, puis qu'annoncer les vraies affaires, pas nécessairement pour pas se faire des ennemis, mais on cherche pas à se faire des amis, on cherche à établir la vérité pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Puis merci de ce que tu vas faire dans nos vies. Puis on s'en remet à toi, puis on te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen. Amen.